Bonjour et bienvenue donc à cette table ronde sur qui s'intitule « Quels événements changés dans le passé ?» Donc on va parler de voyage dans le temps et du chronie aussi, enfin voilà, sur le temps avec nos auteurs et nos spécialistes de science-fiction. Comme on est dans cette petite salle, dans cette configuration où on est près de vous, on va vous laisser un peu de temps, j'espère, à la fin pour poser des questions. Donc voilà, n'hésitez pas à réfléchir s'il y a des choses qui vous viennent. Il faut profiter du fait qu'on est proches les uns des autres. Là. Je vais commencer par présenter les invités et puis on va commencer à discuter tous les cinq. Tout là-bas, loin, Nadia Coste, qui est une auteure plutôt de romans jeunesse, on peut dire, voilà, plutôt de fantasy. Tu as écrit...
Non, j'ai commencé par la fantasy, ouais. Mais maintenant j'ai des romans dans les trois genres de l'imaginaire.
Donc une auteure de l'imaginaire, qui a notamment écrit un récit pour la jeunesse de voyage dans le temps, donc un récit de voyage dans le temps personnel. Et on va voir la différence entre ton travail à toi sur le voyage dans le temps et celui de Christophe. Karine Goblet, qui elle est une spécialiste de la science-fiction. Tu viens de sortir un livre sur la SF. Et la fantasy sur l'imaginaire.
Je suis une amatrice de science-fiction et de littérature de l'imaginaire. Effectivement, voilà. Je viens de sortir un guide de la science-fiction et de la fantasy qui balaye un petit peu les genres des littératures de l'imaginaire. Et avant ça, j'ai coécrit un guide de l'Uchronie avec mon voisin Bertrand.
Voilà, donc Bertrand Campeys, qui est spécialiste de l'Uchronie, mais pas que, du steampunk aussi.
Non, je laisse là à Étienne Barillier.
Ah bon. Et donc à sa droite, Christophe Lambert, qui est auteur de dizaines de romans, de nouvelles.
Bonjour.
Oui. Voilà, et que j'avais envie de qualifier d'écrivain populaire. Il m'a donné l'autorisation de le faire parce que c'est un compliment dans la bouche de dire à quelqu'un qu'il est un auteur populaire, dans le sens où il écrit pour tout le monde. Et ses romans sont à la fois divertissants et à chaque fois qu'on en ouvre un, on est sûr qu'on va passer un bon moment. Donc voilà. Chaque bouquin de Christophe est comme ça.
Merci.
Pour commencer, je vais demander à Karine, alors, qui n'est pas spécialiste, mais qui a une certaine connaissance du genre, quand même. Dans l'intitulé de la table ronde, il est question de Stephen King de 22 ans 63, où Stephen King imagine empêcher le meurtre de JFK, et aussi de voyageurs temporels qui ont la possibilité de tuer Hitler enfant. Est-ce que tu pourrais peut-être nous citer d'autres œuvres qui participent de cette idée d'aller changer un événement dans le passé ? Je ne sais pas, mais est-ce que tu connais peut-être une des premières œuvres qui a traité de ça ? Est-ce qu'on a, niveau historique, un aperçu de... Parce que H.G. Wells, je sais, lui, il va plutôt dans le futur, dans la machine à voyager dans le temps. Est-ce que le premier truc où on revient et qu'on change est connu ?
Si on prend le premier truc où on revient dans le passé et où on change, on va tomber tout de suite dans l'Uchronie, qui est quand même très précise. Et l'Uchronie, on va en trouver assez loin dans le passé, mais des choses qui ne relèvent pas du corps de la science-fiction tel qu'on peut l'entendre maintenant. C'est-à-dire que c'est seulement dans les années 60 que la science-fiction s'est réappropriée le procédé d'aller dans le passé et de changer un événement. Autour du what if, parce que ça avait plus un rapport avec le voyage dans le temps. C'est la thématique du voyage dans le temps qui était prégnante à ce moment-là. Dans le voyage dans le temps, on a énormément d'œuvres, c'est un grand corpus, c'est un grand pan de la science-fiction, et on a un peu de tout. Si je dois donner un auteur qui va jouer sur à la fois la science-fiction et l'Uchronie, je vais parler de Robert Silverberg, qui va recréer des empires, l'Empire romain, Roma Aeterna, qui va déporter prisonniers politiques dans le Cambrien, dans les déportés du Cambrien. On va avoir cet auteur-là qui va faire des sauts. Pour autant, c'est plus je vais dans le passé, et le voyage dans le passé, il ne revient. Je n'ai pas la possibilité de revenir dans le futur, en fait, derrière, là-dessus. C'est-à-dire que le voyage dans le passé, ça crée. À partir du moment où on crée un voyage dans le passé, qu'on crée un changement dans le passé, l'avenir ne peut plus être écrit de la même façon, et donc on a un paradoxe temporel. On va reprendre tout simplement René Barjavel, le voyageur imprudent. Il envoie son personnage dans le passé, et lors de ce voyage, le grand-père du personnage est tué. Donc si le grand-père du personnage est tué, il ne peut pas naître dans le futur et donc il ne peut pas rentrer, revenir dans le passé. Donc on a ce paradoxe qui est un petit peu compliqué à gérer là-dessus.
Là, on verra après toutes les solutions peut-être qu'il y a. Est-ce que Bertrand, toi, tu peux nous expliquer peut-être la différence entre une uchronie et un récit de voyage dans le temps où on change le passé ? Parce que c'est pas tout à fait pareil. Dans une uchronie, il n'y a pas de voyage dans le temps, en fait.
Si. En fait, il y a vraiment plusieurs catégories. À l'origine, pour éviter des problèmes, je pense à la nouvelle L'homme qui tua Mahomet, où c'est un Américain qui, pour diverses raisons, fait un voyage dans le temps pour tuer Mahomet, puis ensuite s'arrête pas en si bon chemin et décide d'aller tuer Jésus et ainsi de suite. Et à chaque fois, en fait, c'est tout le leitmotiv de la nouvelle. Où je crois que ça partait de l'histoire. Sa femme le trompait avec un type. Donc il se disait que tant qu'à faire, on allait supprimer le problème existentiel à la base, à savoir les religions. Parce que bon, quand même, merde. Et dans les faits, pour pouvoir expliquer que ça n'a aucune espèce de conséquence sur le temps, on crée, pour ma part, de manière littéraire, l'existence de mondes parallèles. Ça transparaît également dans des œuvres de comics, hein, comme l'univers de DC ou l'univers de Marvel, où la Terre est la Terre 616 pour l'univers Marvel, et où pour l'univers DC, il y a une Terre de référence, la nôtre, et puis on a tout un tas d'autres à côté. Ça permet, alors là c'était dans un but essentiellement marketing, de se dire, ah bah tiens, le Batman des années 60, il vit toujours ses aventures dans les années 60, dans une Terre qui est restée bloquée dans les années 60, et ainsi de suite. Ça permettait...
C'est un peu le principe du reboot de J.J. Abrams sur le Star Trek aussi, non ?
Complètement. Là, il y avait un voyage dans le temps avec une complète modification du passé, où les personnages, en fait, vivaient des existences complètement différentes, avec Scotty qui merdait dans la grande largeur en créant le
Ou pour les plus anciens d'entre nous, ceux qui ont connu la série Sliders.
Alors, les deux premières saisons, après, ça devient un gloobie-boulga complètement infâme.
Mais là, tu parles d'univers donc parallèle.
Là, on parle d'univers parallèle. Ouais. Au niveau de l'Uchronie, il y a plusieurs œuvres. Bon, il y a le Wells qui l'a écrit en plusieurs fois. Oui.
L'Uchronie, soyons clairs, il y a moi, la définition que j'entends, tu vas peut-être me contredire, mais tu es là pour ça. La définition que l'œuvre majeure de l'Uchronie, par exemple, c'est le Maître du Haut-Château, où il n'y a pas de voyage temporel. Et il y a juste à un moment l'histoire qui dévie parce qu'un événement s'est déroulé différemment sans qu'il y ait de voyage temporel.
Alors j'ai du mal à... Le but pour moi de Philippe K. Dick, c'était pas tant d'écrire une Uchronie. Ça, je vais rejoindre les propos d'Étienne Barillier là-dessus. Le but de Philippe K. Dick, c'était de montrer comment des individus ordinaires pouvaient vivre dans un système finalement complètement déshumanisé, inhumain et totalitaire. Que ce soit le système nazi ou le système japonais. Il y a un monde parallèle. Tu t'en aperçois, il le développe de plus en plus dans la série télé chez Amazon. À un moment, l'un des protagonistes aboutit dans un univers qui ressemble au nôtre et est subjugué de se rendre compte que c'est différent. Ah bon ? Enfin, non, dans mes souvenirs, c'était très fragmentaire.
Non, c'est pas le nôtre.
D'accord.
Donc en fait, il y a l'univers du Maître du Haut-Château mm-hmm. où se déroule l'histoire. Il y a l'univers qu'entrevoit un des personnages qui n'est pas le nôtre. Et qui est l'univers par contre du livre dans le livre qui s'appelle La Sauterelle pèse lourd où un écrivain a écrit une histoire où les alliés ont gagné la guerre contrairement à l'univers du livre
mais qui est déjà différente de la nôtre effectivement.
Et donc il y a notre monde à nous, donc le lecteur est aussi dans un monde ça fait
d'accord.
dire au lecteur
là on tombe toujours sur la grande thématique de Dick, c'est-à-dire qu'est-ce que le réel et tout un tas de trucs
mais on est d'accord pour dire que c'est quand même le cadre est une uchronie et que j'ai du mal à différencier entre univers parallèle et uchronie en fait.
Pour moi, le premier, une construction littéraire créée à la base pour pouvoir dire on va dans le temps, on modifie un événement du passé, mais regardez, on est toujours là, c'est fantastique, tout
ça,
va pour le mieux.
Parallèles.
Ça, c'est les univers parallèles. Donc, ça permettait d'éviter pour l'auteur de se dire ah oui, mais non, ils ont changé l'histoire, mais ça n'a rien changé à notre niveau. Ensuite, tu as réellement des événements qui vont changer. Tu as la nouvelle Un coup de tonnerre de Ray Bradbury, où parce qu'ils écrasent un papillon. Ça modifie l'histoire sur le très long terme. tu as la première uchronie pour ma part au monde, donc le Napoléon apocryphe. Là, tu n'as aucun voyage dans le temps. Tu as Napoléon qui décide de ne pas foncer sur Moscou, qui se replie sur Saint-Pétersbourg et qui, à partir de là, va gagner sa campagne en Russie et va même conquérir la totalité du monde connu, devenir l'équivalent de Dieu quand il va mourir, ainsi de suite. Là, on tombe réellement sur un schéma uchronique.
Donc, mais là, il n'y a pas de voyage temporel.
Voilà. Mmh. Après, tu vas avoir des auteurs qui vont y jouer. Tu as la patrouille du temps de Poul Anderson, où effectivement l'une des nouvelles d'Hélène d'Aest joue avec le principe en fait que le monde, les Amériques sont découverts, j'allais dire limite au temps de Rome, et donc c'est toute une diaspora de plusieurs nations complètement différentes, que ce soit des Visigoths, des Ultragoths et ainsi de suite, qui cohabitent. Donc on n'a pas finalement une découverte faite en 1492 ou autre. Là, oui, t'as un point de divergence qui est clairement identifié à un moment dans la nouvelle, et t'as même un auteur sous pseudo, je crois que c'est dans l'Utopial 2005, qui a écrit une espèce de préquel à la nouvelle d'Hélène d'Aest, qui s'appelle Lettre au fils, qu'il a mis sous le nom de Hamilcar Barca, qui est le nom en fait du père d'Hannibal. Qui écrit une lettre à son fils, et c'est un mélange en fait de la patrouille du temps avec le monde du fleuve de Philippe Joseph Farmer, et le pitch est juste brillant et très très bien mis en scène. Donc tu peux avoir des voyages dans le temps pour modifier le passé. Terminator, si ça s'était arrêté aux deux, ça aurait été parfait, mais ouais. Et ainsi de suite.
Ou Moorcock, Voici l'homme.
Ah oui, c'est un des exemples que je voulais. Bah, tu peux expliquer
mais
peut-être que.
Donc, on a pour le coup un voyageur temporel qui repart dans le passé. Mais après, si je l'explique, je spoil le bouquin quand même. Oh. C'est vache. Non, je peux pas faire ça.
C'est dommage.
Disons que vous allez découvrir Jésus sous un angle complètement inédit.
Ah non, c'est dommage parce que justement, c'est un des exemples où. Alors, en essayant de ne pas spoiler, le voyageur temporel. Ne crée aucun paradoxe en fait. Il retourne dans le passé et alors qu'on croit qu'il va tout changer et qu'à un moment on a l'impression que évidemment rien ne va se passer. Il se passe que lui-même s'applique à ne pas.
Voilà. En fait, ça c'est deux théories. Enfin, il y a deux visions de l'histoire. La première vision, c'est sont les grands hommes qui font l'histoire et ce sont eux qui font que l'histoire se déroule de la manière dont on la connaît. Et puis il y a une autre théorie qui dit que l'histoire c'est des courants de fond et que parfois ça s'incarne en une ou deux personnes qui sont là au bon endroit au bon moment. Dans Voici l'homme, c'est exactement ça. C'est l'histoire va suivre son cours parce qu'il y a un courant de fond et à un moment donné, ça tombe sur ce clampin-là, voilà, qui devient Jésus, alors que ça aurait pu être n'importe qui d'autre. C'est pareil avec Chronique des années noires de Kim Stanley Robinson. La trame historique est maintenue, même si ce ne sont pas les mêmes acteurs. C'est-à-dire qu'on va avoir des Chinois, on va avoir des Vikings, parce qu'on a 75% de la population européenne qui est morte de la peste au Moyen-Âge. Donc on va avoir ce côté-là. Donc c'est deux visions de l'histoire et deux visions de la façon dont on va raconter l'histoire, dont elle va se forger là-dessus.
Puis j'allais même dire, à côté de nous avons la brèche, avec deux mondes, en fait, deux futurs possibles qui vont lutter pour pouvoir... changer le cours de l'histoire à ce moment clé qui est le 6 juin 44.
Là, on est presque dans de la physique quantique où il y a deux possibles.
Le but du jeu pour les héros, c'est d'empêcher l'uchronie, c'est de garder l'histoire sur les rails officiels, on va dire. Ouais.
Tu peux expliquer un peu ce qu'est la brèche, peut-être ?
Alors, la brèche, le point de départ, c'est en 2060. Il y a une émission de télé-réalité qui a la fausse bonne idée d'envoyer des reporters vivre des événements clés du XXe siècle en direct. Alors, ils viennent filmer l'assassinat de Kennedy, notamment. Et puis, je ne sais plus, au bout de 3-4 émissions, ils envoient leurs deux envoyés spéciaux le 6 juin 44 à Omaha Beach. Donc, c'est le soldat Ryan revisité. Et nos héros ont pour consigne de rester témoin, le plus témoin possible et le moins acteur possible pour justement éviter tout paradoxe, tout accro. Dans la trame temporelle. Malheureusement, il y en a un qui va bousculer un général qui est interprété par Robert Mitchum dans le jour le plus long, qui est un peu le gars qui avait galvanisé les troupes au moment où les Américains piétinaient et n'avançaient pas, étaient bloqués sur la plage. Donc ce type-là se prend une balle dans la tête. Et voilà, si le jour J, si le... L'opération du débarquement est compromise. Est-ce que par un jeu de domino, ça va avoir une conséquence sur l'issue de la guerre. En fait, j'ai un peu triché parce que la vraie bataille pivot, j'ai même beaucoup triché. La vraie bataille pivot, plutôt que le débarquement, c'est Stalingrad, hein, c'est pas le débarquement. Mais
narrativement, c'est peut-être plus.
Ben moi, j'avais en tête la couverture qui a été superbement illustrée par Manchu avec l'image d'Épinal du débarquement, la ligne d'horizon avec l'armada qui se profile. On voit ça dans le film, hein, avec l'officier allemand qui regarde à la jumelle et qui voit des petits points noirs. C'est l'armada des alliés qui arrive. Sauf que moi, j'ai fait rajouter un exosquelette avec une croix gammée qui attend de pied ferme les alliés, les Américains. Donc, tout de suite, ça crée un effet de curiosité, je pense. On a envie de savoir ce qui va se passer. Et voilà, je trouvais que le télescopage était visuellement plus fort que si ça avait été un drone ou un robot dans les ruines de Stalingrad. Il me semble que ça parle moins, cette image parle moins à l'inconscient collectif que Omaha Beach. Donc j'ai opté pour le débarquement. Et voilà, donc nos deux héros qui sont des envoyés du futur et qui sont en contact avec le futur via des oreillettes commencent au bout d'un moment à entendre parler en allemand dans leurs oreillettes. Donc ils se disent, bon là, est-ce qu'on n'a pas fait une connerie? Et ils ont quelques heures pour remettre l'histoire sur les bons rails et éviter Fatherland, éviter une uchronie catastrophe.
Tu l'as fait souvent, ça, de travailler sur l'histoire et sur certains événements pivots de l'histoire. Tu travailles comment sur tes recherches?
Ah bah c'est la partie la plus sympa, hein, la partie des recherches. Quand on lit des bouquins, qu'on met des annotations, qu'on met des post-it, c'est vraiment un tremplin pour l'imagination. Moi, c'est ce que je préfère. On fait ça en écoutant de la musique de film, ça c'est très rigolo. On rêvasse sur le canapé en bouquinant, on regarde des films, des documentaires. Là, c'est pas du boulot, c'est du plaisir. Après, quand il faut se mettre tous les jours à son clavier pour rédiger l'histoire, c'est un peu plus laborieux.
Est-ce que tu as des retours d'historiens? Parce que je pense que ça intéresse pas mal d'historiens, les
alors, quoi qu'on fasse, on se fâche avec quelqu'un. Comme il y a différentes chapelles, il y a différents courants. Donc, des fois, on est obligé de choisir son camp. Moi, je suis pas historien, donc généralement, je choisis le camp qui m'arrange d'un point de vue dramatique, d'un point de vue narratif, qui est pas forcément le camp qui a pignon sur rue ou qui est le plus, je sais pas, le plus vraisemblable ou le plus accepté. Donc oui, forcément, j'ai des gens qui m'écrivent en me disant « Mais comment avez-vous osé ? Vous dites que la deuxième vague d'assaut arrive à 7h43, c'était 7h41. Kappa a pris 3 pellicules et non pas 2. C'est à cause de gens comme vous que des fausses idées se propagent. » Bon, voilà.
Nadia, alors toi, tu dans Ascenseur pour le futur, qui est un ouvrage assez récent, je crois.
2014.
Qui alors c'est pas du tout un jeu sur l'histoire, toi, mais c'est un jeu sur l'histoire personnelle avec un personnage qui avance un peu un anti-retour vers le futur.
Moi j'avais très envie de travailler sur le voyage dans le temps depuis longtemps parce que c'est quelque chose que j'aime, dont je lis des livres, je regarde des films, etc. Mais quand je me suis posé la question, je me suis demandé finalement mon héros, qu'est-ce qu'il veut en voyageant dans le temps? Est-ce qu'il veut changer le passé très loin? Est-ce qu'il veut vivre des événements historiques? Est-ce qu'il veut aller voir les dinosaures? Est-ce que c'est un explorateur du temps? Pas du tout. Moi, mon héros va construire cet ascenseur pour voyager dans le temps parce que il était pas bien quand il était petit, voilà, il se faisait un peu racketter au collège, il faisait des grosses crises d'asthme, il avait très peur de mourir à cause de ça, et il avait à 10 ans, il était persuadé qu'il allait pas vivre très vieux, qu'il allait mourir d'une de ces crises d'asthme. Et donc, plus âgé, il va construire cet ascenseur à voyage dans le temps pour aller se rassurer quand il était petit, pour aller lui se dire, tout va bien, tu vas pas mourir, tu vas grandir, tu auras des enfants, tout va bien se passer. Sauf que mon personnage, enfin ça c'est hors du texte totalement ce que je vous dis, c'est vraiment sur la réflexion de la création, mon personnage va se dire finalement, tous les choix que j'ai faits m'ont construit à devenir l'adulte que je suis maintenant, donc comme j'aime bien qui je suis, je vais pas y aller. Et par contre, il va saouler ses enfants avec, vous comprenez, quand j'avais 10-11 ans et qu'on m'a cassé le nez, voilà, il va les saouler avec ses histoires de raquettes de quand il était petit, mais avec toujours la trouille de pas y aller, pas se sauver. Du coup, c'est un de ces gamins qui va y aller. Effectivement, j'ai pris le point de vue inverse de Retour vers le futur, que j'aime aussi, mais je voulais vraiment pas faire ma version à moi, parce que dans l'idée, on est plutôt du point de vue du père que du point de vue du fils. Donc en fait, Ascenseur pour le futur, c'est une histoire de voyage dans le temps, mais entre les années 90 et maintenant. On part avec le héros depuis les années 90. On part avec un héros qui est persuadé, comme la plupart d'entre nous l'étaient peut-être, qu'il y aurait des voitures qui volent en l'an 2000, qu'on ne mangerait plus de légumes et qu'il y aurait des petites pilules à la place, qu'on pourrait se téléporter d'un coin à l'autre de la planète et qu'on pourrait faire des vacances sur Mars. Donc voilà, mon héros, c'est vraiment... voilà, il n'est pas bien dans sa vie, il est à peu près sûr qu'il va mourir jeune et tout d'un coup, il va se faire sauver le jour où il aurait dû se faire casser le nez. Il va se faire sauver par un ado un petit peu mystérieux avec une grande mèche à Justin Bieber qui l'agace un peu et du coup il va comprendre qu'il est effectivement dans un ascenseur qui lui permet de voyager dans le temps. Il va le supplier d'aller voir son futur et il va arriver en 2015. Donc j'avais vraiment pas envie d'être dans une situation, d'être dans un temps inconnu de nous. J'avais pas envie de placer ça en 2020, en 2050, où j'aurais tout à imaginer sur comment va évoluer le monde, parce que je suis sûre de me planter sur plein de points. Je l'ai fait sur d'autres romans, mais c'était pas la question. Là, l'idée, c'était de me dire, finalement, ce roman, tout ce que je dis sur 91 est juste, tout ce que je dis sur 2015 est juste, et que même si ce roman, on lit en 2020, 2050, ce sera toujours juste, ce sera presque historique sur comment on vivait dans les années 2000 et comment on vivait dans les années 90. Mais voilà, c'était vraiment cette envie Alors, le choix de l'ascenseur, hein, finalement, le choix de comment on voyage dans le temps, est-ce qu'on a une montre, est-ce qu'on a la possibilité de rentrer, est-ce que c'est une machine. Dans Retour vers le futur, ils ont besoin de se déplacer physiquement, donc la voiture était une bonne chose. Moi, j'ai un point fixe, parce que il va sauver quelque chose dans son enfance, dans sa ville de son enfance, où il habite encore quand il est grand, donc il n'a pas besoin de se déplacer d'une ville à l'autre. Donc cet ascenseur était un point fixe, et j'ai fait en sorte qu'il puisse voyager de sa naissance à 100 ans après, on va dire, pour une espèce d'évaluation optimiste du fait qu'il va vivre 100 ans. Voilà, c'est grosso modo voyager dans le temps de sa vie, et pas voyager dans l'histoire, voilà, pour influencer sa propre vie.
Et ça n'a que des conséquences que à terme très personnel, quoi, pas sur l'histoire.
Oui, en fait, au-delà... Même si on aborde le racket, c'est vraiment pas un livre sur le racket, c'est plutôt un livre sur la confiance en soi, sur comment les choix qu'on fait nous construisent. Et en fait, donc cet ado qui va... Bon, ça c'est un petit spoiler, hein, mais bon, ça ira, normalement vous m'en voudrez pas trop. Donc c'est son fils qui va se retrouver avec lui. Donc quelque part, j'emmène le lecteur de maintenant, hein, des ados de maintenant, je les emmène dans l'enfance de leurs parents pour leur montrer comment on vivait sans internet et avec un jeu vidéo. Quand on tourne à droite, ça tourne pas à droite. Et du coup, voilà, emmener des ados de maintenant dans l'enfance de leurs parents, puis emmener les parents que nous sommes, en tout cas, ramener un petit peu ces souvenirs-là pour leur montrer, finalement, si j'emmenais mon moi de 10 ans maintenant, qu'est-ce qui ferait qu'on est dans le futur par rapport à quand j'étais enfant ? Qu'est-ce qui fait que tout a changé par des détails, mais pas des voitures qui volent ? Voilà, donc c'était ce trajet-là, ce voyage-là, et bien sûr, l'adolescent qui vient de 2015 va se retrouver coincé dans les années 90, puisqu'il a permis à son père d'avoir plus confiance en lui, et donc bah, ça a tout changé.
Est-ce que tu as travaillé sur les paradoxes ? Est-ce que c'est une question qui t'a travaillé ?
Oui, absolument. C'est un des pièges, hein, du voyage dans le temps. Il ne faut pas se planter là-dessus, surtout auprès de la jeunesse. Il faut quand même qu'ils comprennent tout. Donc, il y a un moment, quand on a besoin de faire un schéma pour comprendre, c'est que c'est trop compliqué. Donc, même si on a toujours envie de le faire, quand on lit certains livres sur le voyage dans le temps, on a envie de se faire une petite frise chronologique en regardant à quel moment ça marche et est-ce que le paradoxe temporel fonctionne. Si j'en dis beaucoup, je vais spoiler tout le roman. Mais bon, on peut aussi, hein. C'est moins grave. Au départ, pour me retrouver, mon personnage s'appelle Brett, parce que sa mère était fan d'Amicalement Vôtre, et que Roger Moore est son James Bond préféré. Et au départ, le personnage qui venait du futur, c'était lui-même vieux, donc on avait Roger, qui avait 80 ans et qui venait se sauver lui-même. On avait tout un thème autour de la nostalgie, ça marchait pas, j'ai refait les choses différemment avec un ado. Mais du coup, j'ai gardé quand même ce côté-là, c'est-à-dire j'ai mon Brett qui a 10 ans, il va se voir dans le futur à 40 ans, et il va retrouver qu'il ressemble un petit peu à James Bond finalement quand il a grandi, en tout cas un petit peu, et du coup au lieu de se dire c'est le Brett de 10 ans, le Brett de 40 ans, Brett, on est perdu dans les Bretts, donc j'ai gardé Brett, James, j'ai plus de Roger, mais on avait l'idée de garder un acteur et ses différents rôles pour s'y retrouver dans les personnages et pas dire attends c'est lequel celui-là, il a quel âge, attends j'ai encore un Brett là, et du coup voilà, parce qu'il y a forcément un moment où on se rencontre, où on se voit, où on voit qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a pas changé, et effectivement, si on imagine que donc il se fait casser le nez, il construit l'ascenseur à voyager dans le temps, donc son fils revient le sauver, donc il se fait pas casser le nez, il a aucune raison de fabriquer cet ascenseur. Donc voilà. Donc l'idée, c'est finalement que cette relation qu'il va avoir avec son fils, ce moment unique dans une vie, c'est quand même pas donné à tout le monde d'avoir 10 ans et d'avoir son propre fils qui a 14 ans avec qui on peut communiquer vraiment, du coup, va être très important dans sa vie, et que même s'il se fait sauver, il va quand même construire l'ascenseur, voyager dans le temps, et il va quand même faire en sorte que son fils vienne, il va mentir pour que ça se passe bien comme ça.
En gros, ça s'est toujours passé ainsi, quoi.
C'est ça. En gros, il y a une première boucle où il se fait casser le nez, et une deuxième boucle où il n'a pas le nez cassé. Mais d'accord. Dans tous les cas, l'ascenseur sera construit, d'accord, et le fils partira.
Moi, j'avais compris que ça s'était toujours passé ainsi, mais...
Ça peut pas.
Ça peut pas.
Ça peut pas. Objectivement, s'il n'a pas une première boucle où le fils vient pas, il n'y a aucune raison qu'il construise l'ascenseur. Il faut bien qu'à un moment, le temps se déroule.
Oui, oui. Ok. Donc là, on entre dans le problème des paradoxes. Alors, j'ai beaucoup de mal avec ça. Tu vois, déjà, j'avais...
Faut faire des schémas.
Donc là, on parle dans l'intitulé de la table ronde que je n'ai pas rédigé, je le dis tout de suite. On parle du paradoxe du grand-père, donc ce dont Karine parlait au tout début. Donc on revient dans le passé, on tue son grand-père, on ne devrait pas exister. C'est ce qu'il y a un peu dans Retour à le futur, où quand ses parents sont en train de ne pas s'embrasser à Marty McFly, et lui il est en train de disparaître, enfin, son frère aîné disparaît, etc. Voilà, c'est plutôt une image qui explique vraiment ce paradoxe. Il y en a un autre qui est le paradoxe de l'écrivain et paradoxe de prédestination. Est-ce que l'un de vous veut expliquer ou... Parce que j'ai pris des notes et tout. Alors, je vous cite Wikipédia, donc ma référence. Donc, le paradoxe de l'écrivain, appelé aussi... Après, vous allez dire, ah mais oui. Appelé aussi paradoxe de la prédestination, est un paradoxe temporel qui décrit la situation suivante. Un écrivain s'expédie à lui-même dans le passé... en utilisant une machine à remonter dans le temps, un exemplaire imprimé du livre qui l'a rendu célèbre.
Ah mais oui.
Je finis. Dans le passé, il écrit son manuscrit en recopiant simplement l'exemplaire reçu. Le livre n'a donc jamais été écrit. Juste recopié, il apparaît ex nihilo. C'est un paradoxe apparenté au paradoxe du grand-père.
Objection.
Vas-y.
Objection, votre honneur. Le temps paralysé... Dean Rekuns, bah j'en parlais à ma table ronde de ce matin sur Time War. Donc c'est une jeune femme qui a que des ennuis depuis sa naissance. J'arrive plus à me souvenir s'il y avait le père libidineux, enfin les problèmes à l'école, et ainsi de suite. Et subitement, un jour, elle voit apparaître un bel homme qui arrive toujours au moment opportun, la sauve des pires crasses et redisparaît. Et donc forcément, ça devient le mythe du sauveur. Hein. Oh mon Dieu, il est beau et tout. Puis il apparaît, il vient peut-être du futur pour me sauver. Et jusqu'au moment où elle le récupère, je crois que le type est blessé et en train de commencer à tourner du nez. Il dit, ah mais alors, vous venez de quelle année 2030, 2198. Puis celui qui le regarde, justement tombé dans les pommes, il déclare 1943. Il dit, ah, l'Allemagne nazie. Puis poum. Et là, on s'aperçoit en fait que les nazis ont construit un projet de machine à voyager dans le temps en 43, qui commence à le tester en expédiant des SS dans le temps pour regarder. Bon, alors déjà, première constatation, on a perdu la guerre. Deuxième constatation, on a perdu la guerre. Troisième constatation, merde, qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même la gagner? Donc, ils commencent à voyager, ils se disent, ah bah, on n'a plus besoin de se faire chier à aller chercher des technologies secrètes. La construction d'une bombe atomique, on peut aller dans n'importe quelle bibliothèque, on ouvre un bouquin, vous n'avez pas encore Wikipédia à l'époque, et on constate qu'on a besoin de ça, on fait un mélange, et t'as tout un tas de petits trucs comme ça. Et le héros, à un moment, à une scène clé à la fin, arrive dans le bureau de Winston Churchill, et pour lui prouver qu'il vient du futur, lui amène la totalité des mémoires de guerre de Churchill. Et quand, ah, voilà, vous l'avez écrit et tout, et bon, Churchill le regarde les bouquins et dit, très bien. Mais je ne les lirai pas. Ah bon? Mais pourquoi? Bah, vous les avez amenés, j'imagine que vous avez autre chose à foutre que de les créer dans un coin pour pouvoir me dire je viens du futur et patati patata. Je voudrais juste savoir un truc, oui. Ils sont bien vendus. Ah, mais Monsieur Churchill, ce sont des best-sellers qui ont été toujours imprimés. Très bien, je note. Donc je ne les lirai doublement pas parce que je sais d'ores et déjà que je vais écrire des best-sellers.
On évite ce paradoxe de l'écrivain.
Et tu as une autre nouvelle, mais plus confidentielle, de Stephen King, où là, c'est de l'Uchronie personnelle aussi, c'est un grand fantasme d'écrivain, c'est un type qui, en tapant sur une machine à écrire, en fait, le texte qu'il écrit modifie sa vie en temps réel. D'accord. Et elle était sublime, je crois pas qu'elle ait été
adaptée. Machine divine à traitement de texte. Hein.
C'est ça,
il me semble. Ça n'aurait pas été adapté avec Johnny
Depp.
Je sais pas. C'est ouais, c'est ça. Nadia, tu voulais...
Oui, moi, je trouve il y a deux lignes différentes au niveau du voyage dans le temps. C'est le fait de changer un événement et immédiatement tout le futur va changer. Enfin, sans parler des mondes parallèles, hein. Mais voilà, ou changer un événement et qu'il y a un petit temps d'adaptation. Moi, c'est vrai que je suis plutôt contre le petit temps d'adaptation. Je suis plutôt pour le changement immédiat. J'ai cité jeudi soir, mais comme vous étiez peut-être pas là, je vais le reciter. Mais par exemple, dans le film de X-Men Days of Future Past, il renvoie quelqu'un dans le passé pour changer les choses et on a droit à tout un tas de scènes dans le futur. Oulala, avec une espèce de compte à rebours, genre est-ce qu'il va y arriver et tout. Alors que dans l'absolu, bah, ça s'est passé 30 ans avant. Donc soit il a réussi et donc toutes ces scènes-là ont aucun intérêt, soit il a raté et du coup, bon bah, ne voyons pas le passé, enfin ou presque, mais en tout cas, il devrait pas y avoir de suspense sur on est à une minute près 30 ans avant pour voir ce qui va se passer dans notre futur. Donc pour moi, du moment où la personne repart dans le passé, bah, le futur change immédiatement.
Oui, mais Harvey Weinstein te dirait que ça fait vendre.
C'est peut-être mon erreur.
Y a un peu ça dans Looper aussi où il...
Non mais Looper, il y a un problème de base première boucle. Enfin, il y a...
Ouais, ouais.
On peut en parler.
Mais oui, non.
C'est Christophe qui disait que c'était loupé.
Dis-nous tout, Christophe.
Voilà, j'ai dû écrire la critique du film quand il est sorti, donc là, ça m'est un petit peu sorti de l'esprit, je t'avoue.
Il y a un truc qui m'a marqué, c'est que voilà, je sais plus qui remonte dans le passé et coupe un bras. Un type dans le passé, on le voit dans le futur perdre ses bras en direct. Mmh. Les trucs disparaissent, les membres disparaissent. Voilà.
Mais c'est surtout que dans la première boucle, globalement, le personnage qui revient, qu'on envoie dans le passé, a un sac sur la tête. Et dans la boucle où il va s'en sortir, il n'a pas de sac sur la tête. Donc il y a un moment, c'est pas possible que ce moment-là soit différent. C'est-à-dire si on le renvoie dans le passé toujours à la même heure, au même endroit, s'il réussit à changer quelque chose, il n'y a pas de raison que la première
c'est
boucle...
C'est peut-être mieux rendu dans Fréquence Interdite, le film. J'ai pas encore regardé la série vu qu'elle a été annulée. Fréquence Interdite, en fait, c'est un fils flic de nos jours dans les années 90 qui suite à une aurore boréale en rebranchant la radio amateur de papa qui est mouru depuis de nombreuses années se met soudainement à communiquer avec son passé. En fait, il se rend compte qu'il commence à parler à son père et au début, ils font 2-3 petits trucs. Le père, je crois, fait cramer sans faire gaffe un bout de table. On voit que la table a une vieille trace de brûlure qui apparaît dans le futur, etc. Et à partir de là, le héros va commencer à se dire « Ah ben attends, mon père est mort en fait dans un incendie à tel moment. Il a été pris dans un retour de flamme. Papa est pompier, s'il n'avait pas compris. Donc, il lui donne juste comme indication « Alors quand t'es à tel endroit, fonce à droite. Te pose pas de questions, fonce à droite. » Et on voit que c'est devenu une espèce de d'horreur personnelle, quoi, la disparition du père, et ainsi de suite. Sauf qu'en modifiant petit à petit l'histoire, parce que après, il dit « Ah, au fait, et papa et tout, enfin, papa est mort il y a 20 ans d'un cancer parce qu'il fumait trop. » Ensuite, l'objectif, c'est de dire à son père « T'arrêtes la cigarette et tu te mets au sport. » Mais du coup, il va commencer à modifier l'histoire un peu plus large au niveau de la ville, vu qu'il va mettre en branle un tueur en série qui va réellement bouger dans sa première ligne, mais qui va commencer à s'intéresser à sa famille pour diverses raisons. Donc là, on voit des petits changements. Il y a notamment une scène clé à la fin où, en fait, le type est combattu doublement à la fois dans le passé et dans le présent. Il y a une séquence où le méchant se fait oblitérer la main droite par une décharge de fusil à pompe. Donc le mec, dans le futur, voit immédiatement sa main disparaître dans la foulée. Mais là, comme on dit, c'est une question de timing. Ça permet de dire, genre, ah, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer, et ainsi de suite, et autres.
En fait, on peut aussi ne pas se poser la question des paradoxes temporels et faire de très bons films qui s'en fichent complètement. Si je reprends About Time, Il était temps, de Richard Curtis avec Rachel McAdams ou Raquel McAdams, je ne sais pas comment on prononce. On a tous les hommes de la famille qui peuvent voyager dans le temps, ils découvrent qu'ils peuvent voyager dans le temps, ce n'est qu'une caractéristique offerte aux hommes. Hein, donc on appréciera ou pas.
Je trouve ça pas mal, moi.
Ce n'est qu'offert qu'aux hommes. Donc à 21 ans, notre protagoniste, dont j'ai oublié le prénom, découvre qu'il peut voyager dans le temps et commence à se dire waouh, je vais pouvoir corriger tout ce qui ne va pas, quoi. Et donc il fait ses premières armes, il va voir la fille qui lui a mis un vent quand il était ado, il essaye de la draguer tout l'été. Donc il refait 3 étés pour arriver à la draguer. Il n'y arrive absolument pas, parce qu'il y a tout un tas de choses qu'il ne maîtrise pas. Et il s'entraîne comme ça à modifier des petites choses dans son passé, et à chaque fois il revient du point où il est parti. Donc voilà, et il voit les changements tout de suite. Donc à un moment donné, il veut protéger sa sœur d'un mari violent, etc. Donc effectivement, il protège sa sœur d'un mari violent, et puis il revient à l'époque à laquelle il revient, sa sœur a accouché d'un enfant, et en fait c'est une petite fille blonde, et là elle a un garçon brun. Donc il se rend compte que les changements qu'il a pu faire sont immédiats quand il revient, et on ne se pose pas du tout la question du paradoxe temporel, parce que rien ne tient la route, hein, d'un point de vue, si on commence à faire des boucles, si on commence à faire des dessins, c'est fini, on est perdu, d'autant plus que le père, lui aussi, pouvant voyager dans le temps, il va aussi... Et à un moment, ils vont essayer de se recroiser dans certains moments pour repartager des choses, parce que le père, il a un cancer en phase terminale, enfin voilà, c'est pas très larmoyant, mais c'est vrai que c'est plus des tranches de vie, donc ça joue plus sur l'émotion que sur les idées, on va dire. Et derrière, ils vont donc se croiser dans le passé et revenir dans le passé avec cette connivence de savoir que tous les deux, c'est un passé qui recrée, et ainsi de suite. Donc il ne faut pas suivre la cohérence temporelle, il ne faut pas chercher le paradoxe. En fait, l'outil, il est ailleurs. L'outil ne sert pas à se dire « Oh, on va faire un truc qui tient bien la route avec des belles boucles et une cohérence parfaite. » On va juste faire une belle histoire avec des sentiments, des tranches de vie et en fait, l'humanité derrière, en fait. Ce qu'il y a derrière, je suis humain, j'aime, je vis, je corrige des choses, etc. quoi. Et les paradoxes temporels, pour le coup, on s'en fiche, mais très très loin. Quoi.
À ce niveau-là, tu le retrouves aussi dans le livre et dans la série 22 novembre 63, justement, où ça joue à la fois sur...
Sur le chrony personnel et sur...
C'est un voyage dans le temps, tu penses que c'est une uchronie, et en fait, à la fin, tu t'aperçois que c'est des mondes parallèles.
Il y a une idée absolument géniale dans le King, c'est que plus tu essayes de faire une modification lourde de conséquences, plus le temps offre de la résistance. Plus il y a des embûches sur le chemin
du héros. Oui, ça j'avais trouvé très bien. Bah, à l'origine, de toute façon, je crois que c'était un bouquin qu'il avait commencé très jeune, qu'il n'avait jamais réussi à boucler, et c'est son fils Joel qui lui a donné un coup de main pour... La fin est très belle. La fin est peut-être... En fait, pour ma part, c'est pas un roman de voyage dans le temps, c'est un roman d'amour. Et la fin à ce niveau-là apporte une conclusion qui est vraiment bouleversante par rapport à tout ce que le héros a fait. Après, le leitmotiv, voyager dans le temps, changer, etc. King avait fait une très très belle préface dans l'édition grand format. J'espère qu'ils l'ont reproduite dans le poche. C'est de rappeler que les années 60, le côté cool, le côté grand changement, le côté Kennedy était un mec bien et génial, etc. Bah, à côté de ça, t'avais quand même la ségrégation, t'avais le fait que les Noirs, on leur demandait d'aller gentiment pisser dans des endroits qui étaient pas les mêmes que ceux délivrés aux Blancs, t'avais les femmes restées au foyer, puis c'était très très cool, hein, vous êtes bien gentils, mais restez à la maison, vous occupez des tâches ménagères, et on parlera de la charge mentale dans 30 ans. Et ainsi de suite.
Maintenant, cette nostalgie vintage s'est déplacée sur les années 80. Là,
Mais c'était très cool.
Moi, ce que j'ai apprécié dans le roman de King, c'est que, comme dans beaucoup de romans sur le voyage dans le temps, où on se dit on peut presque tout faire finalement, si on. Ben voilà, il faut comme le téléporteur de l'Enterprise, il faut un moment que ça foire, sinon il n'y a pas d'histoire, on sauve les gens toujours à la dernière minute. Et dans le roman de King, plus on avance dans l'histoire et plus on voit le temps qu'il prend à s'installer et à essayer des premières choses, etc., plus on voit le temps qui reste en page et on se dit il pourra pas le faire plusieurs fois. Et du coup, ça amène une tension une tension narrative qui est différente de si il suffisait de repasser une porte et de revenir, j'ai raté quelque chose, oui. Hop, je repasse ma porte, je reviens. Et du coup, c'est pas tout à fait la même dynamique de se dire, bon, je peux essayer plein de fois, je peux retourner plein de fois dans le même été, ou finalement, j'ai peu d'essais. pour y arriver.
Puis t'as le début qui est proprement terrifiant à chaque fois, c'est il arrive et il tombe sur un clochard qui le regarde d'un air halluciné. Ou petit à petit, on comprend qu'il y a un truc en plus.
Il faut expliquer qu'il revient toujours à la même seconde, c'est ça. Ouais. Même, voilà,
quoi qu'il fasse.
Donc l'assassinat de Kennedy est toujours 5 ans plus tard, je crois. Donc s'il veut l'empêcher, il faut qu'à chaque fois il
puisse lui vieillir. En fait, c'est en allant dans le resto d'un ami, une espèce de petit mobile home, le type sert toujours des super hamburgers avec à 2 centimes la viande ou autre, tel qu'on le faisait dans les années 60, un coup, mais alors réellement minime. C'est là où il montre finalement le pouvoir de l'argent, le fait qu'à l'époque, il y avait... Oui, ça leur paraissait nettement plus cool par rapport à... Ils n'avaient pas eu des crises économiques, le pétrole, t'avais aucun problème, les bagnoles, ça coûtait 3 francs 6 sous, elles étaient superbes, bon, il n'y avait pas de ceinture de sécurité, mais qu'est-ce qu'on en avait à foutre? Et il parlait pas encore de Vietnam et tout un tas d'autres trucs. Donc quand il arrive, le mec finit par avoir son plan avec sa valise remplie de bifetons et ainsi de suite. Mais effectivement, pour y arriver, il faut tout simplement aller dans la réserve du Mobilhome et faire un pas en avant et tu te retrouves projeté dans une espèce d'arrière-cour d'usine avec un clodo qui le regarde toujours d'un air hallucinant en disant « mais ce mec vient d'arriver de nulle part ».
Le personnage du clochard, il est intéressant d'un point de vue mythologique. C'est ce que Joseph Campbell appelle le gardien du seuil. Quand tu passes du monde ordinaire au monde extraordinaire, tu as souvent une espèce de, soit de cerbère, de gardien qu'il faut affronter, soit quelqu'un à qui il faut donner une obole, faire un sacrifice ou donner une piécette. C'est la même chose dans Big, hein, l'histoire de Tom Hanks qui redevient un petit garçon. Il doit donner une pièce à cette espèce d'idole d'Indien et on bascule dans le monde extraordinaire. Voilà.
Il nous reste plus beaucoup de temps, c'est peut-être le moment de vous donner la parole. Voilà, allez-y.
Comme quoi, voyager dans le temps est totalement nécessaire afin que le temps, justement, garde sa cohérence. Je ne sais pas si vous avez lu Dragon déchu, donc au final, je me suis demandé, est-ce qu'on pourrait peut-être réfléchir à ça, développer peut-être, si vous voyez ce que je veux dire.
Tu t'appelles comment ?
Jean Hérold.
Jean Hérold, je viens du futur, et crois-moi, ça va merder, viens avec moi. Voilà. Tu as un exemple de voyage temporel. Non, c'est technique.
Tu veux pas répondre ?
Ça veut dire je l'ai pas lu, moi. Il y a une police du temps, il y a des nettoyeurs qui viennent remettre les choses en
place.
C'est
un type qui va faire un choix à un moment donné de sa vie, qui va s'engager dans les forces armées, qui va suivre toute une série de missions. Et à un moment, en fait, il va accéder à une technologie qui lui permet de voyager dans le temps. Donc il va revenir au moment où il part. Pour modifier en fait sa propre histoire personnelle, pour schématiser à outrance. Mais ça, c'est vraiment dans les dernières pages du roman. Donc on tombe sur le voyage temporel et l'Uchronie personnelle et tout le cheminement de la construction du petit garçon qui est devenu un homme, qui a passé à travers tout un tas d'épreuves et ainsi de suite. Le roman était franchement pas mal. En devenant à moitié fou, c'est limite de la physique quantique, quoi. Faudrait déjà définir ce qu'est le temps, faudrait imaginer qu'il y ait la possibilité de partir du principe, est-ce qu'on peut réellement le remonter, est-ce que c'est comme un fleuve, est-ce que c'est comme ça, pouf. Moi je prendrais bien un ascenseur et puis un vodka martini aussi.
Généralement, dans les histoires de voyage dans le temps, je vais retirer les uchronies du corpus, quand on voyage dans le temps, généralement, ça se passe pas bien. C'est-à-dire que l'histoire qui est donnée, c'est qu'il y a une catastrophe qui se passe et ça change le cours du temps. Et il faut surtout pas changer le cours du temps, quoi. Donc on l'a dans La Brèche, mais on l'a aussi dans un tas d'autres romans. Moi, je pense à Coné Willis avec Sans parler du chien et avec Le Grand Livre. On envoie des historiens et des archéologues dans le passé pour justement étudier Eblitz, pour justement étudier comment ça se passait à l'époque. Ils changent des petites choses et à partir du moment, involontairement, même pas volontairement, il faut surtout rien toucher, et à partir du moment où ils changent les choses, eh bien, ça change l'histoire et ça pose de gros problèmes. Et on a des brigades temporelles, alors je pense à la brigade du temps en BD, mais aussi aux patrouilleurs du temps, où il faut justement surtout pas que l'histoire soit modifiée. C'est-à-dire que ça se passe pas bien quand on modifie l'histoire.
Il y a Jasper Ford dans sa série avec First Day Next, où le père de l'héroïne fait partie justement des services secrets britanniques, mais finit par se rebeller et est parti avec sa propre machine temporelle. Et il y a des séquences, mais à mourir de rire, où le père apparaît et limite, par moment, il sort. Et Winston Churchill, ça te dit quelque chose ? Je te dis, hein ? Non, jamais entendu. Ah, merde ! Et tout, puis il disparaît. Puis à un moment, justement, il y a une séquence, on voit la fille qui passe en voiture à côté d'une ancienne base aérienne abandonnée. Elle dit, ah oui, c'était un camp de la Luftwaffe. Donc on comprend que les Allemands, puis les Français, parce que le grand leitmotiv, c'est les Français. Oui, parce que généralement, il apparaît, et sa première question, c'est, comment est mort l'amiral Nelson et tout. Ah, il a été abattu par un sniper et tout. Ah, salaud de Français ! Puis il disparaît. Donc on se rend compte que le mec mène sa propre guerre personnelle et qu'il a fini par devenir à moitié fou, donc je pense que les services secrets ont dû se dire on va peut-être arrêter les choses, et lui s'est barré en disant non, mais vous vous rendez pas compte, si on continue comme ça, on aura un premier empire français qui aura tout bouffé, et ça on peut pas le laisser advenir, mais qu'à côté, les Allemands ont aussi fait des trucs où ils font mourir Winston Churchill de Scarlatine à 10 ans pour pouvoir envahir les îles britanniques tranquillement en 40.
Oui, c'était aussi une des théories de Dick qui disait que notre présent est toujours en train d'être réécrit, on s'en rend pas compte en fait, mais voilà, dans le passé, il y a des choses qui se réécrivent. Et nous, en tant que nous, on voit pas, mais tout a changé. Voilà. Il y a 40 ans, peut-être que c'était pas ce président qui a été élu, mais un autre, et que des gens sont remontés pour donner le biberon de super pouvoir à Macron pour qu'en 40 ans, il puisse être élu. Enfin, bon, voilà.
Oh, ça doit survenir beaucoup plus régulièrement que ce qu'on croit en Russie et en Corée du Nord.
Moi, je suis à peu près persuadé qu'une personne sur deux dans la salle est un voyageur temporel du futur, mais ils peuvent pas le dire, quoi.
L'iPhone 10, il est vraiment aussi cher que ça. Vous en êtes à quelle version d'ailleurs ?
D'autres questions ?
Oui, j'ai une autre question. Je cherche le titre d'un roman qui n'a pas été évoqué depuis que je suis aux Utopiales depuis jeudi dernier. C'est justement un roman dans lequel le temps est préprogrammé et à l'épreuve du paradoxe. Et donc l'humanité du futur qui est en destruction programmée a fait de plus en plus confiance aux machines, et avec ce contrôle, cette connaissance du temps qu'ils ont, ils savent quand ils peuvent aller dans le passé, et ils découvrent finalement pourquoi. C'est pour récupérer les personnes qui vont mourir dans des catastrophes aériennes, puisqu'après personne ne va retrouver les cadavres, et en fait ils vont cryogéniser ces personnes-là dans le futur, dans leur temps à eux, pour ensuite les expédier dans un futur encore plus lointain. Donc ça, c'est le projet de la civilisation du futur. Et alors, c'est un auteur des années 70, un américain, et je suis incapable de retrouver le titre de ce roman.
Moi, je pense que c'est un bouquin que tu as lu dans un univers parallèle, et quand tu es revenu, c'est effacé. Il n'existe pas dans notre univers.
Mais du coup, il y a une connaissance du temps qui serait préprogrammée et à l'épreuve du paradoxe. Et c'est absolument infaillible. Donc, cette
ça
théorie
s'appelle la boisson.
Cette théorie a été peu évoquée en fait, c'est-à-dire que les gens savent comment utiliser le temps et savent dans quelles limites exactes ils peuvent utiliser le temps. Et le cœur de l'histoire, bien sûr, c'est une histoire d'amour, donc c'est pas ça. Là, ce que je vous ai dévoilé ne révèle rien du livre. Donc
il couche avec Cynthia.
Non, mais dans ce genre de roman, on est à la limite du déterminisme, quoi. C'est vraiment cette espèce de destin figé, quoi qu'on fasse, etc. Donc, enfin, moi,
j'ai pas lu le patriarcat.
Oui, c'est là, ça aussi une des questions centrales du voyage dans le temps, c'est le libre arbitre et le déterminisme. Est-ce qu'on peut changer les choses ? Est-ce que voilà, les regrets,
Le plus intéressant, c'est justement, comme tu disais dans le bouquin de King, où justement le temps, on se rebelle. En tout cas, c'est pas si facile que ça. Il y a une résistance où il y a des conséquences plus importantes, ou comme dans l'effet papillon, où il y a justement des conséquences de plus en plus difficiles.
Alors, je sais pas si vous avez lu Ripley de Kim Greenwood, où le héros en fait meurt d'un arrêt du cœur à 45 ans. Il est journaliste sportif et il se retrouve à l'âge de 20 ans. Et en fait, à chaque fois, il retourne jusqu'à 40 ans, il meurt, il retrouve dans le passé, mais à chaque fois un peu plus vieux. et tout.
En
et
fait, il tombe toutes les possibilités que lui offre la vie, y compris effectivement le fait d'essayer de pas mourir à 40 ans. Mmh. Puis il finit par rencontrer une fille qui a à peu près le même syndrome que lui. Oh ouais, très très bon. Alors à l'origine, c'est assez horrible parce qu'on s'en est aperçu quand on a écrit le guide de l'Uchronie. Ken Grimwood était en train d'essayer d'écrire une suite. Au bout d'un moment, j'imagine qu'on a tous besoin de sous et qu'on revient à des œuvres qui ont fait votre succès, et est décédé d'une crise cardiaque en commençant à l'écrire.
Et est-ce qu'il est retourné à l'âge de 20 ans ?
Y a Ripley 2 qui est en vente à la librairie. Spielberg y est intéressé.
Mais donc, dans ce cas-là, en fait, il n'y a pas de... c'est une boucle qui se
oui. C'est une boucle qui donne sur une uchronie...
Edge of Tomorrow.
Voilà. Ça, en fait, maintenant, c'est devenu un leitmotiv parce que c'est la manière la plus simple, en film ou autre, d'expliquer aux gens le cheminement. Le phénomène de boucle, hein, des trucs, visuellement, ça, on le voit, ça parle à tout le monde, ça coule de sens même, pour ainsi dire.
Ouais, sachant que sur la boucle-là, on a une particularité sur Ripley, c'est qu'il ne redémarre pas toujours au même moment, c'est-à-dire qu'il meurt toujours au même moment, au même âge, de la même chose, d'une crise cardiaque, mais au fur et à mesure où il fait ses boucles, il remonte de plus en plus loin. C'est-à-dire au départ, il repart de la fac, après il repart du lycée, enfin, ou je ne sais plus dans quel... voilà, mais il revient de plus en plus jeune, en fait, là-dessus. Hein.
Un film qu'on n'a pas cité mais qui moi me fascine toujours, c'est Primer, sur le voyage dans le temps, où deux scientifiques découvrent par hasard, ils cherchent pas ça, qu'ils peuvent remonter dans le temps de 8 heures ou de 6 heures, je sais plus, et donc ils s'enferment dans un caisson et ils remontent dans le temps, et à chaque fois ça crée des doubles évidemment, donc ils vont se planquer pour faire leur pari parce qu'ils essayent de gagner des sous pour financer leur projet. Et à la fin du film, alors il y a un schéma qui existe sur internet justement, et qui est le schéma le plus fou que j'ai jamais vu, parce qu'à la fin, il y a des doubles partout. On ne comprend plus qui fait quoi, quels sont les doubles. Parce que le cinéaste s'est pas amusé à marquer. D'habitude, on marque les doubles. Oh, il se cogne en sortant de la boîte, et puis voilà, il a une cicatrice. Procédé narratif. Mais là, non, pas du tout. Donc, il y a des doubles partout. On ne comprend plus rien de ce qui se passe. Il y a un truc avec une oreillette, un des gars du futur qui dicte à l'autre ce qu'il doit faire. Enfin... c'est complètement fou, on ne comprend rien, et c'est, je pense, le film le plus génial sur le voyage dans le temps que j'ai vu, parce que ça doit représenter vraiment ce qu'est le voyage dans le temps, si ça existait, quoi. On ne comprend rien, et c'est génial.
Bah, la jetée ou l'armée des 12 singes.
Ouais, mais c'est quand même beaucoup plus simple, et c'est une boucle qui... voilà. Mais c'est vrai aussi.
C'est vrai qu'à la fin, voilà, assister à sa propre mort, c'est wouh.
Primer, quoi, voilà. Une toute dernière question.
Oui, juste pour... je suis là.
Ah oui.
Parce qu'on a beaucoup parlé du coup du voyage dans le temps, de ses conséquences, de ses paradoxes, et je voudrais juste revenir sur le titre de la conférence. Si vous deviez changer un événement dans le passé, ça serait lequel ?
Je l'avais écrite cette question. C'est vrai.
Alors je vous propose de remonter dans le temps pour pouvoir la poser plus tôt cette question.
Ah, généralement, c'est une excellente question.
Généralement en Uchronie, comme je disais à l'origine, on s'embêtait pas trop, c'était on changeait les batailles. Parce que c'était l'événement qui paraissait le plus simple à changer. Le convaincu gagnait, et puis youp la boum, et ainsi de suite. Donc ça, c'était pour montrer finalement ce que je qualifie de monde encore plus horrible que le nôtre. C'est ce qui marche encore. L'Allemagne nazie a gagné, les sudistes ont gagné. Ça sera l'un des futurs sujets de série apparaître chez HBO, Confederate, et ainsi de suite. C'était relativement simple. Ensuite, vous avez les uchronies personnelles. Vous pouvez effectivement modifier certains événements de votre propre passé. Tel moment, Bill vient vous casser la gueule et vous en êtes jamais remis psychologiquement. Qu'est-ce que je changerais, moi ? Bah rien. Parce que dans ce cas-là, tu crées automatiquement le... Bah, le futur tel quel, on le vit déjà largement. Le passé, je pense que automatiquement on s'apercevrait que oui, Winston Churchill buvait beaucoup, qu'il n'avait jamais réellement fini ses études de stratégie militaire et que l'état-major britannique ne s'en est jamais remis aussi. Son grand rêve, c'était de débarquer en Norvège ou autre, et il a soutenu jusqu'à la fin de la guerre qu'il fallait le faire. Et ainsi de suite. Hitler était un connard, mais ça tout le monde le savait. Alors, au bout d'un moment, t'en arrives à te dire, je pense que ça nous permettrait de nous rendre compte qu'on a complètement idéalisé une partie du passé et que c'était des êtres humains qui, en plus, allaient aux toilettes.
Total. Je suis sûr que t'as une idée, Christophe, d'un truc que t'aurais aimé changer ou
dans même personnel. Dans l'histoire personnelle.
Personnelle ou pas ?
À l'instar d'une célèbre chanteuse, je dirais non, rien de rien, je ne regrette rien.
Là-dessus, il y a un professeur de physique d'une université américaine qui s'appelle Ronald Mallett, qui est l'homme le plus proche d'une machine à remonter dans le temps. Il travaille vraiment sur ça. Il a une unité de recherche dédiée à ça. Et il a inventé un principe théorique pour remonter dans le temps qui devrait fonctionner, mais qui requiert une énergie folle, donc c'est impossible à mettre en pratique. Et lui, sa motivation depuis qu'il a commencé ses études de physique, en fait, c'est de créer une machine à remonter dans le temps pour empêcher la mort de son père, qui est mort d'un accident quand il était gamin. Il s'en est jamais remis. Et il a fait des études de physique là-dessus. On dirait un film, mais...
Il y avait un très bel épisode de Code Quantum où il remontait dans son... Il essayait d'empêcher son frère de partir au Vietnam. Son père fumait trop. Il y avait une scène sublime où il... Pour convaincre sa petite sœur qui venait du futur, il jouait Imagine de John Lennon. Et les gamines pleuraient. Moi aussi, je pleure à chaque fois que je vois cette scène. Elle est magnifique.
Alors sinon, comme source d'énergie, il faut un chat, une tartine de beurre, on scotche le truc et ça... Voilà.
Bon, merci à tous. Merci d'être venus et merci à tous nos invités d'avoir été brillants.